Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bon vendredi midi à tous et à toutes. Bienvenue à ce nouvel épisode de Ciné-Histoire. Aujourd'hui, je serai seul, mais j'ai quelques collaborateurs que j'ai rencontrés un peu plus tôt cette semaine, notamment Maxence Gagné, qui voulait nous parler d'un film japonais. Vous pourrez l'entendre un peu plus tard à l'émission, là, vers midi 15. Sinon, aujourd'hui à l'émission, on a seulement une nouveauté cinéma, donc qui est le nouveau film de Sophie de Raspe Berger, qui prend l'affiche aujourd'hui. Il y a quelques autres nouveautés également qui prennent l'affiche, mais je n'ai pas eu la chance de les voir. Je vais en parler dans quelques instants. Et également, je vous ai préparé un petit tour d'horizon du nouveau numéro, en fait, qui commence à dater, là, mais du nouveau numéro de 24 images, donc le numéro 212. Donc, je fais un petit tour. C'est un numéro vraiment très intéressant sur les effets spéciaux et l'évolution des effets spéciaux et ce que nous réserve un peu l'avenir de ces effets spéciaux-là. Depuis le dernier épisode, qui était un épisode un peu particulier dans le cadre du Radioton de ces facs, il y a eu quelques sorties qui ont pris l'affiche, notamment un nouveau film de Steve McQueen malheureusement, je crois, pas sombre dans l'oubli, chacun de ses films, chacun de ses projets a peut-être pas nécessairement la visibilité espérée. On se rappelle Steve McQueen, c'est pas l'acteur des années 60, là, c'est le réalisateur britannique qui a fait notamment 12 Years a Slave, qui avait gagné l'Oscar du meilleur film, qui a fait aussi Hunger sur une grève de la faim d'un, pas révolutionnaire, un manifestant irlandais. Son plus récent projet mainstream, si on veut, c'était Widows, qui est une espèce de, je sais pas, heist movie avec des protagonistes féminins qui n'avaient pas connu de succès escompté. Et puis après ça, il a fait beaucoup de téléséries, donc notamment le projet Small Axe qui avait été ultra bien reçu, mais qui a été diffusé à peu près nulle part, malheureusement. Et puis là, il y avait son nouveau film Blitz qui a pris l'affiche la semaine dernière et qui est toujours à l'affiche cette semaine si jamais vous voulez faire un peu de rattrapage. Donc c'est avec Saoirse Ronan. C'est ça, une histoire qui se passe, je crois, dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est peut-être pas au calibre de ses plus récents, de ses films phares, mais je crois quand même qu'il reste un réalisateur vraiment très intéressant. Donc, si jamais vous voulez aller voir ce week-end, n'hésitez pas. Sinon, il y a aussi le Cyclone de Noël qui a pris l'affiche la semaine dernière et puis qui a trôné au sommet du box-office québécois et puis qui est rendu un petit peu plus qu'un demi-million jusqu'à présent. Les critiques sont, comme on peut s'y attendre, un peu tièdes, mais l'engouement du public est quand même là. Je ne l'ai pas vu, malheureusement, mais c'est ça. ça a pris l'affiche. Sinon, il y avait également... je l'ai mentionné, je crois, dans la dernière émission, mais il y avait Venom 2 là, qui est sorti à un certain moment. Bon, on l'attendait pas, puis je m'attends pas à grand-chose non plus. Il y a eu Smile 2 aussi dans la franchise d'horreur qui est quand même surprenamment aimé du public. Mais cette semaine, il y a plusieurs autres nouveautés qui font leur sortie, notamment Anora de Sean Baker, qui est la plus récente Palme d'Or, qui est cotée 16 ans et plus. Un film un petit peu... érotique, comme on pourrait... vous le verrez probablement là, si jamais vous allez le voir. Moi, je ne l'ai pas vu encore, malheureusement, mais je compte bien y aller cette semaine sans faute. Je l'attends depuis déjà un petit moment. Sean Baker, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup aussi, qui est très underground aux États-Unis, en espérant que celui-ci le fasse sortir un peu de ce statut. Mais il avait fait notamment Tangerine, The Florida Project, Red Rocket, bref, des films vraiment très intéressants. C'est ça, celui-ci a gagné la Palme d'Or, rien de moins. Sinon, il y a Berger, je vais en parler dans quelques instants aussi. Il y a Nikki aussi, un film français avec Charlotte Lebon, un drame biographique qui nous plonge dans la France des années 50. On suit en fait... ce personnage-là, donc Nikki, qui est installée en France avec son mari et sa fille, loin d'une Amérique et d'une famille étouffante. Mais malgré la distance, Nikki se voit régulièrement ébranlée par des réminiscences de son enfance qui envahissent ses pensées. Depuis l'enfer qu'elle va découvrir, Nikki trouvera dans l'art une arme pour se libérer. C'est un film de Céline Salette, mais une coproduction France et Belgique avec notre actrice québécoise et réalisatrice également, Charlotte Lebon. Donc, il y a Damien Bonnard également là-dedans, mais je ne l'ai pas vu lui non plus, donc je ne peux pas trop vous en parler. Sinon, ben, ça commence les films de Noël tranquillement. J'ai parlé du cyclone. Ben là, il y a Red One, ou en français, Nom de code rouge, avec J.K. Simmons qui joue un personnage, Père Noël, pardon, qui se fait kidnapper. On a également The Rock, Chris Evans, Lucy Liu. Bref, un film, un blockbuster que je ne sais pas s'il va vraiment pogner ou pas. Là. Moi, personnellement, il ne m'attire pas plus que ça, mais c'est ça, les films de Noël. S'il n'y en a pas beaucoup qui sortent cette saison, ben il y aura probablement la cote. Et puis sinon, ben c'est ça. Ben, il y a A Real Pain aussi, le nouveau projet de Jesse Eisenberg avec Kieran Culkin. Eisenberg joue également dans le film. Donc ça aussi, ça a l'air très très bien. Allez voir ça. Mais là, je veux parler un petit peu de Berger qui a gagné meilleur film canadien au plus récent TIFF, donc le Festival de films de Toronto. Je l'ai vu et c'est vraiment très bien. Pour vrai, même si j'ai certaines réticences, c'est vraiment très, très bien. Donc, c'est basé sur un récit autobiographique de Mathias Lefébure. Donc, on suit justement un personnage qui s'appelle Mathias qui quitte l'agence de communication pour laquelle il travaille à Montréal et qui décide de devenir berger en France, en Provence. Donc, il fait le grand vol et puis il essaie d'intégrer un peu cette sphère de l'économie agricole française, un métier qui est évidemment très très dur, mais le film n'est pas dur en soi non plus. Donc là, on le voit évoluer, il essaie de se trouver du travail, il réussit, bon, il n'est pas très bon puisqu'il n'a aucune expérience, donc il se fait renvoyer à quelques reprises, mais finalement, il réussit à obtenir un troupeau pour faire la fameuse transhumance. La transhumance, c'est l'espèce de voyage qu'un troupeau fait pour aller brouter l'herbe des Alpes françaises. Donc, c'est ça, on le suit à travers tout ça, on le suit à travers son... c'est comme un récit initiatique, là, même si le personnage a une trentaine d'années. C'est un petit récit initiatique sur... peut-être un retour, tu sais, il y a une réflexion intéressante entre quelqu'un qui travaille dans une agence publicitaire, donc dont le but est de faire la promotion de la consommation, donc de nouveaux produits et tout. Puis là, un retour vers quelque chose d'un peu plus... un peu plus traditionnel, un peu moins axé justement sur les valeurs capitalistes, donc que ce soit le slow food, que ce soit justement de se rapprocher un peu de la terre. Donc il y a des réflexions assez intéressantes là-dessus. Évidemment, les paysages sont grandioses. On est vraiment allé tourner là-bas. Le film a pris presque une dizaine d'années là, à voir le jour. Le tournage avait comme semi-commencé pendant la pandémie. Bon, ça a été repoussé finalement. Et puis là, on le voit, Sophie Deraspe, ça fait un petit moment aussi qu'on ne l'avait pas vu. Son dernier film, c'était Antigone. Qui avait d'ailleurs été la soumission du Canada pour les Oscars, mais bon, ça ne s'était pas rendu jusqu'à une nomination. C'est ça, c'est son nouveau projet. Et puis, c'est ça, c'est vraiment très, très beau. C'est très positif aussi comme film, ce genre de récit-là, parce que le comparable assez facile à faire, c'est Into the Wild, là, un film de Sean Penn, qui était très pessimiste, lui, malheureusement, avec sa fin aussi très dramatique. Ici, on est vraiment dans l'espoir, on est vraiment dans c'est ça, voir le bon côté des choses, puis suivre justement le personnage de Mathias et puis de sa blonde qui va se faire là-bas à travers les déboires, mais des déboires assez légers, c'est peut-être là le mérite de sens. Peut-être que moi, j'ai une âme très pessimiste ou très cynique dans la vie, mais j'ai trouvé ça un peu trop j'ai pas vu de gros enjeux pour le personnage principal, malheureusement, qui nous aurait peut-être fait un peu plus apprécier son chemin qu'il fait. Bon, oui, il y a des péripéties ici et là, mais je les ai trouvées un peu soit un peu trop dramatiques ou dramatisées. Et finalement, qui se règle relativement facilement. Donc, on aurait pu voir un peu plus d'enjeux. Bon, en même temps, on est un peu limité par le cadre de ce roman-là qui existe déjà. Donc, le roman qui s'appelle « D'où viens-tu, berger? », je crois. Bref, c'est ça. Il y a aussi le personnage principal que j'ai trouvé un peu difficile à... à s'attacher un peu. Là. Il est comme un peu l'archétype de l'espèce de bourgeois montréalais qui n'est jamais sorti de l'île et puis que, là, il fait le grand voyage vers la France. C'est pas la faute de l'acteur. Je pense vraiment que c'est la faute du personnage, de comment il a été écrit et tout, parce que l'acteur, je trouve qu'il rend bien, somme toute. Si je ne l'ai pas aimé, j'imagine que c'est parce qu'il fait un bon travail. Là. C'est Félix-Antoine Duval qui vient de la Beauce, là, pas trop loin d'ici, et qui en est pas mal à un de ses films majeurs. Son premier rôle à l'écran. Il a fait beaucoup de télévision avant, mais là, c'est ça, au cinéma. C'est pas mal son premier rôle. Et puis, c'est ça, c'est des réticences un peu. Et puis, il y a certains dialogues un peu didactiques, un peu, là, où là, on décrit un peu la situation là, des fermiers ou des travailleurs agricoles français. Puis là, on nous lance de façon un peu moins subtile peut-être certaines statistiques ou certains trucs en jeu que cette communauté-là vit, que j'ai trouvé un peu maladroite par moment. Je comprends qu'on voulait passer un peu ce message-là à travers... c'est beaucoup d'images contemplatives. Les images parlent d'elles-mêmes un peu, ce qui fait que peut-être le peu de dialogue qu'il y a, c'est dommage que ce soit justement un petit peu forcé comme ça, un peu moins naturel. Mais je comprends aussi que la forme que le film prend est assez différente du roman qui est très dans l'introspection. Là, on s'est écarté un peu de cette narration qui aurait pu facilement être omniprésente, puis que là, on a gardé vraiment au strict minimum. C'est ça. Mais ultimement, malgré ces critiques-là, moi, je trouve que c'est vraiment un très, très bon film, très intéressant. T'sais, on n'en voit pas beaucoup des films québécois avec des décors grandioses ou des environnements grandioses comme celui des Alpes. Ils ont vraiment travaillé avec, je crois que c'était 3000 chèvres. Donc, tout au long du tournage, on les voit justement interagir avec tout ça. C'est assez impressionnant. C'est un cachet qui est difficile à rendre, évidemment, ici au Québec. Donc, c'est pour ça qu'on est allé en France. Mais c'est ça, visuellement. Je pense que c'est un film à voir sur grand écran parce qu'il y a vraiment une plus-value visuelle à ce film-là. Très, très dans la contemplation aussi de ces paysages-là. Donc, j'ai vraiment aimé ça, malgré c'est ça, quelques réticences qui, moi, personnellement, m'ont moins attiré, mais qui, pour vous, peut-être, ne seront pas un irritant comme l'ont été pour moi. Mais vraiment, je crois qu'il vaut... J'ai pas vu encore Une langue universelle, là, qui est la soumission justement canadienne aux prochains Oscars, mais le fait d'y avoir donné le prix du meilleur film canadien au TIFF, c'est pas gênant non plus. C'est vraiment un très très bon film d'une réalisatrice là, qui justement enfile pour l'instant là, les réussites critiques. Donc allez voir ça pour vrai. Berger, ça prend l'affiche aujourd'hui. C'est très très bon. On s'en va pour ce publicitaire, puis au retour, ben, on va parler justement du film de Yasujiro Ozu, An Autumn Afternoon, ou Le goût du saké en français, donc avec mon collaborateur Maxence Gagné. Et puis on revient dans quelques instants.
Un jour je vais faire un film, je ferai la prise de son, la réalisation,
Je rejoins au bout du fil mon chroniqueur Maxence Gagné. Salut Maxence, ça va bien?
Oui, très très bien, toi?
Oui, ça va super bien, merci. Aujourd'hui, tu as voulu nous faire sortir un petit peu du cinéma français, du cinéma américain, pour aller du côté du Japon cette fois, avec un film de Yasujiro Ozu, Le goût du saké, ou en anglais aussi, An Autumn Afternoon. D'entrée de jeu, pourquoi avoir choisi ce film-là, ou avoir choisi Ozu?
Mais j'ai choisi déjà un film, on n'avait pas parlé encore de cinéma asiatique, que je trouvais ça intéressant, peut-être de s'aventurer sur ces chantiers-là. Et ensuite, Ozu, pour moi, malgré que sa très grande popularité parmi les cinéphiles, on en parle peut-être moins, mettons, quand on parle du Japon, du cinéma japonais de ces années-là, on en parle moins peut-être que des films de samouraï, de Kurosawa ou des Godzilla. Puis pourtant, c'est des films qui peuvent nous en apprendre, qui peuvent nous ouvrir sur cette culture-là et nous en apprendre beaucoup, parce que ça se passe à peu près tout le temps dans une époque contemporaine à Ozu, là, pas à nous, mais ça se passe dans les années 50 et 60. Puis bon, c'est des films aussi qui ont, au-delà juste de faire différent, là, c'est aussi des films d'une très grande qualité là, que je trouve remarquable.
Ozu, c'est un réalisateur très prolifique, là, à peu près un film par année pendant quoi, une quarantaine d'années au moins. Certains de ses films ont été perdus avec la guerre, malheureusement. Mais
tous ceux post-guerre ont pas mal tous été préservés. D'ailleurs, Criterion a fait un très bon travail de les rendre accessibles, soit à travers leur plateforme, soit à travers des éditions physiques et tout. Ozu, évidemment, est quand même bien connu pour Tokyo Story, qui est souvent considéré parmi un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. Mais cette fois, tu as voulu y aller avec son dernier film. Pourquoi?
Bon, ben déjà, parce que c'est un film là, qui encapsule beaucoup de ses idées déjà. Mais aussi, peut-être pour en faire découvrir un qui va c'est quand même un de ses films les plus connus. Là. On peut le retrouver dans les listes de Sight and Sound si on scroll jusqu'à la position, je pense, 250. Là. Mm-hmm. Mais bon. On n'en parle peut-être pas autant que Tokyo Story. Puis je voulais faire découvrir. Un film qui est tout aussi intéressant que d'autres d'Ozu, mais peut-être pas son plus connu. On dirait que c'est peut-être le troisième plus connu, disons.
C'est un film en couleur aussi, là, ce qu'il n'a pas fait souvent dans sa carrière.
Oui, il fait partie de ces réalisateurs-là, comme Kurosawa aussi, beaucoup de réalisateurs européens l'ont tardé aussi. Il y a une peur, on dirait, pour beaucoup de ces de se planter ou que le film ait de l'air plus cheap. Déjà, quand t'as un budget aussi petit que Ozu avait, ajouter de la couleur, ça peut parfois être un contrat plus dangereux qu'à Hollywood. Ouais, ouais,
ouais. Exact. Donc, tu l'as dit, c'est un film qui encapsule d'autres histoires aussi ou d'autres films, d'autres thématiques qu'il avait abordées plus tôt dans sa carrière. Ça parle de quoi, justement, le goût du saké?
Si on le résume à une phrase... Ça parle d'un père dans la mi-cinquantaine qui doit progressivement se résigner à trouver un mari pour sa fille. Il sait que ça va lui... Au début, il n'est pas trop enclin à cette idée-là, mais c'est ses amis qui vont le convaincre. Puis il doit se résigner, dans le fond, un peu à travers ça, à sa solitude, là, parce que lui, il est veuf aussi. Donc, c'est une histoire... c'est pas... Je dirais, c'est très traditionnel pour Ozu. Là. C'est pas la première fois même qu'on a une histoire semblable. Late Spring, un autre de ses films très très connus, dans les grandes lignes, une histoire qui est identique. Là.
Moi, je trouve que c'est quand même... j'en ai vu quelques-uns au Zoo, mais on dirait que chacun de ces films est pas mal un point d'entrée dans son univers, notamment parce qu'on retrouve justement certains trucs assez standards de son style. Hein, des plans qui sont très statiques comme plans, très low angle, quasiment à ras le sol. Des ambiances très, très... lent ou slow burner et tout ça. Mais celui-là, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'un peu plus bon joueur que ces autres films. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Là. Il était très dramatique, mais il y avait, on dirait, quelques passes d'humour qui m'ont quand même surpris, du moins que je retrouve pas nécessairement dans les autres films que j'avais vus de lui. Là.
Je pense que ça dépend des films tout de même. C'est vrai que celui-là, avec... Il s'appelle le goût du saké parce qu'il y a une importance à accorder à l'alcool. Je pense que dans pratiquement tous les scènes, les personnages se saoulent. Puis il y en a une particulièrement, je pense, drôle, où ils sont dans un bar puis ils commencent à danser sur une espèce de marche militaire. Mais c'est pas non plus le réalisateur. C'est pas un réalisateur glauque non plus, je dirais. Tu sais, j'ai vu un film qui s'appelle Good Morning. C'est un film à filmer au niveau des enfants. Puis il est quand même capable d'avoir. Il peut y avoir de l'innocence dans ses films à certains moments. Là. Mais c'est vrai que dans certains des autres de ses classiques, Tokyo Story est plus. Plus triste.
Je sais pas si c'était l'effet de la couleur ou quoi. Puis d'ailleurs, on peut parler des thématiques, mais je voudrais revenir sur la couleur aussi parce que je trouve qu'il l'exploite très, très bien visuellement. C'est vraiment très intéressant. Mais je sais pas si c'était peut-être au niveau de la couleur, ceux que j'avais vus qui dataient plus des années 30 là, étaient vraiment un peu plus... down, vraiment plus triste ou c'est ça, il y avait un peu moins de rigolade, mais effectivement, je ne l'ai pas vu ni Good Morning ni Tokyo Story, donc il faudra que je fasse un peu de rattrapage. Justement, parlons-en un peu de ces thématiques-là qui l'explore. Ben, si tu veux nous en parler un peu plus, justement.
La plupart du temps, c'est comme un... Peut-être que les gens connaissent Hirokazu Korida, là, qui est comme un peu un héritier d'Ozu. Là. C'est souvent... ces films vont tourner autour de la famille, autour de l'institution du mariage. Souvent, c'est aussi... Il y a des personnages plus âgés dans ces films. Un des acteurs qui est le plus fréquent, je pense, dans pratiquement tous ces films, en fait, peut-être dans une quarantaine de films, il a casté Shishu Ryu. Puis dans les derniers films, ben, l'acteur était plus âgé. Puis c'est des films justement là, qui parlent des fois de la solitude, de laisser partir ses enfants. Il y a aussi un des thèmes qu'il va aborder peut-être de manière plus frontale que d'autres réalisateurs qui ont fait des films d'époque. C'est la colonisation des Américains après la guerre, comment la culture américaine est rentrée au Japon. Ça, c'est quelque chose que dans ce film-là, on voit un peu plus dans Good Morning aussi. Des fois, c'est quelqu'un de nuancé aux yeux, des fois, il va le critiquer. Des fois aussi, comme dans ce film-là, il va dire « Ouais, on a perdu un peu notre culture, mais en même temps, il faut pas être nostalgique parce que ce qu'on avait avant, c'était une dictature, c'était du militarisme. » Il y a plein de thèmes comme ça auxquels il revient. Il est souvent nuancé, par contre.
Ouais, la tradition versus la modernité, on le voit que c'est... On parle, je connaissais moyennement, mais même si je me doutais que ça existait, mais tu sais, des mariages arrangés ou tout ça, là, il y a un peu une contradiction entre les mariages arrangés et les mariages d'amour ou par amour aussi, entre sa fille et entre son fils aussi, qui lui, justement, a adopté justement un mariage un peu plus d'amour. Moi, je retrouvais aussi beaucoup le style d'autres réalisateurs, notamment Bas Kiarostami, Jim Jarmusch dans certains de ses films, là. Pas de Dead Don't Die, là, mais certains de ses premiers films aussi dans l'aspect contemplatif de la chose, qui est vraiment très, très bien. Puis c'est un film, je crois, qui... Il faut se laisser porter un peu par cette histoire-là. Tu sais, c'est des scènes très répétitives. Des visuels, c'est ça, très similaires de plan en plan. Mais il y a quelque chose qui se passe quand on regarde ce film-là, j'ai trouvé. Ça coulait bien. On se laisse un peu embarquer dans cette histoire-là. Puis je retrouvais, tu mentionnais Koreeda, j'avais retrouvé un peu ce style-là avec Shoplifters, justement, où il se passe pas grand-chose, mais t'as juste du fun à être là. C'est comme de faire partie un peu de la scène puis à voir un peu... Moi, je trouvais... Je sais pas si j'étais fatigué ou quoi, mais je trouvais ça drôle que tout le monde boive de l'alcool tout le temps. Je trouvais ça... Tu sais, il y a certains moments, sans que ce soit documentaire, on dirait que j'achetais vraiment les situations qui nous étaient présentées. J'ai vraiment beaucoup embarqué dans ce film-là. Alors que habituellement, quand c'est pour être un slow burner ou un film un peu plus répétitif dans sa nature, dans sa structure narrative, habituellement, c'est ça, il faut que je sois dans un bon mood. Je devais l'être, mais moi, je me suis vraiment laissé emporter, puis il faut se laisser emporter parce que sinon, si on se freine un peu à cette répétitivité-là, ben je peux comprendre qu'on passe à côté du gros de l'expérience, là.
Ouais, ben c'est parce que c'est des films, c'est ça. C'est des films très émotionnels, là. C'est des films aussi, tu sais, il peut y avoir beaucoup de moments joyeux. Mais surtout, tu sais, je dirais qu'il y a une partie mélodramatique dans ces films, là. Mm-hmm. Mais d'un côté, comme tu l'as dit, c'est lent. La réalisation est très minimaliste, là. Très calculé aussi, c'est ce qui... Pas minimaliste dans le sens qu'il l'a pas travaillé, parce que on sait maintenant qu'il faisait tout le temps des storyboards. C'était très, très calculé, son affaire. Mais il voulait...
Il
voulait pas non plus mettre de l'emphase sur les sentiments de ses personnages à travers la réalisation. J'ai quand même l'impression... c'est une forme de manipulation comme une autre, là, d'être minimaliste. Là. Mm-hmm. Mais il y a une emphase portée sur le scénario là, qui est très importante. Puis si on ne prend pas attention à... Des fois, c'est ça qui est plus compliqué, peut-être chez les gens qui découvrent Ozu pour la première fois, c'est que c'est des films, contrairement à Kurosawa, là, qui est pratiquement à l'inverse. Là. Kurosawa, c'est très atmosphérique. Il n'y a pas beaucoup de mots très souvent dans ces films de samouraï. Dans des films comme Ran ou Kagemusha, des fois, tu as des scènes de rêve. Il se dit rien, mais c'est très surréel et tout. Ozu, il demande de la lecture. Surtout pour un public qui ne connaît pas le japonais, des fois, c'est ça qui est compliqué. Ça demande beaucoup de lecture pour être frappé par toute l'émotion qui se dégage de ce film-là.
Ce que je trouve un peu dommage aussi, parce qu'on est un peu à la merci du traducteur, essentiellement, de ceux qui ont fait les sous-titres. Puis c'est dommage parce que ça nous permet pas de super bien juger la performance des acteurs. C'est ça, film de Kurosawa, c'est ça, c'est plus marqué par des plans visuellement riches ou c'est ça, des trucs un peu plus universels qui demandent un peu moins de compréhension. Mais ici, oui, effectivement, on est un peu à cette merci-là. Ce qui est dommage, mais je crois que, en tout cas, la version que j'ai regardée, je pense que ça le rend bien, là, somme toute. Moi, je vais revenir un peu sur la couleur, justement. C'est un des premiers films un des plus vieux films japonais en couleur là, que j'ai vu, je crois. Là. Je pense qu'il y en avait une couple, justement, dans les années 60. Mais souvent, l'espèce d'étalon d'or, ou en tout cas de point de départ du cinéma en couleur asiatique, c'est souvent la captation des Jeux olympiques de Tokyo en 1964. Puis là, on est deux ans avant, si je ne m'abuse. C'est 62, je crois.
Oui, c'est 62, mais...
Quelques années avant, mais justement, c'est souvent ce film-là, les Jeux olympiques qui sont considérés comme l'entrée du Japon ou du cinéma japonais dans la modernité. Après ça, il y a eu du Seijun Suzuki, il y a eu du Kurosawa aussi un peu plus fréquemment en couleur. Mais ça m'a étonné de voir ce film-là aussitôt, deux ans avant, là, on s'entend, mais aussi bien utilisé... la couleur, tu sais, je sais pas, il y avait quelque chose d'impressionnisme, tu sais, on dirait qu'il y avait toujours un petit voile, je sais pas sépia, mais un petit voile nostalgique tout au long, tu sais, le vert est jamais vert éclatant, toujours un peu terne. Moi, j'ai trouvé visuellement, je l'ai trouvé vraiment très très beau, puis c'est souvent la tendance que je remarque dans les réalisateurs qui ont commencé dans le noir et blanc, puis qui finalement font le saut à la couleur. Des fois, c'est très tardivement, mais quand ils le font, il y a une raison. Hitchcock a attendu très longtemps pour arriver à la couleur. Ben, très longtemps, en tout cas. Il a fait des sauts en noir et blanc et en couleur un peu tout au long de sa carrière. Kurosawa, on l'a mentionné. Bref.
Je pense que ça me fait penser. Moi, il y a la scène de fin de ce film-là, avec les ombres. On dirait qu'il y a des... on voit qu'il a modifié l'éclairage des pièces de son décor pour pouvoir symboliser la solitude ou l'absence, je dirais, de sa fille. Je trouvais ça intéressant. Mm-hmm. Puis tu disais, c'est ça, un réalisateur que je trouve dont je trouve la transition à la couleur particulièrement symbolique, là, c'est Antonioni qui a fait ça juste deux ans après, en 64, je pense, pour le désert rouge. Mm-hmm. Puis il n'est pas allé de main morte. Des fois, il est allé repeindre des feuilles d'arbres en noir, des choses comme ça. C'est comme tu le dis, là, c'est ça. Il y a des réalisateurs particulièrement d'art et d'essai, mais aussi des pays qui ont moins d'argent que les États-Unis, là, qui l'ont fait très tardivement, mais qui...
Ils l'ont fait avec un grand coup.
C'est ça. Tu sens qu'avant de le faire, ils ont réfléchi. Ils n'ont pas fait ça pour rien. Ils sont pas allés à la couleur juste pour dire « Oh, je vais aller... » Juste parce que c'est dans l'air du temps. Là, ils se sont dit « Il faut vraiment que ça apporte quelque chose. »
Ouais, c'est la même chose qui est arrivée aussi entre le cinéma muet puis le cinéma parlant. Il y a plusieurs réalisateurs qui étaient réticents à tout de suite sauter dans le cinéma parlant. Puis l'exemple... principal, je trouve, c'est Fritz Lang qui, quand il est arrivé dans le cinéma parlant avec M, tout simplement, essentiellement inventé le leitmotiv, la chanson ou le thème attitré à un personnage. Le film-là sort en 1930, je crois, 1931. Donc, on est déjà 2, 3, quasiment 4 ans après l'arrivée du son au cinéma. Mais quand il arrive, il modifie presque le langage. Ou en tout cas, il ajoute au code du cinéma, puis qui après ça a été réutilisé des centaines de fois. Donc, c'est ça, c'est toujours particulier de voir ces films-là, justement, de ces grands réalisateurs-là, les premiers films, que ce soit parlant, que ce soit en couleur. Bref, je trouve que c'était effectivement, si vous n'avez jamais vu de Ozu, je trouve que ce film-là est peut-être un peu moins déstabilisant. Puis, c'est ça, résume beaucoup un peu le style et les thématiques de Ozu. Donc, allez voir ça, c'est sur le channel de Criterion. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être en terminant?
Pas particulièrement. Là, encore une fois, c'est ça. Je pense que ça permet de nouveau, contrairement à des films de samouraï que j'adore aussi, on n'est peut-être pas aussi familier avec c'était quoi la vie à ce moment-là au Japon après la guerre. Donc, ça nous permet d'avoir une fenêtre là-dessus. Puis c'est des films, comme je dis, des films très touchants habituellement. Là, si on se laisse bercer, là, si on arrive là avec l'esprit ouvert, puis qu'on est capable un peu de on finit par s'habituer au sous-titre, là, mais
ouais.
C'est ça. En leur donnant une chance à ces films-là, parce que c'est des films qui vont être très différents des films américains, là, mais avec des histoires. Les films américains ont des histoires souvent très linéaires, très faites de rebondissements, pas les films d'Ozu. Fait que ça peut être compliqué, avec ça au début. Mais si on leur. Si on fait un effort, pas un effort, mais si on leur donne une chance, puis qu'on mette un peu de côté ses préjugés ou ses attentes par rapport à c'est quoi le cinéma, je pense qu'on peut vraiment les apprécier. Là. C'est des films simples aussi, là. C'est pas des films. Les émotions qui sont véhiculées là-dedans sont plutôt universelles, je dirais. C'est pas de la philosophie de haute voltige, là. C'est pas des films difficiles à comprendre. Manière dont c'est filmé qui est différente, mais je pense que c'est ça, qu'il faut leur donner une chance parce que c'est des grands films.
Ouais, exactement. Donc, allez voir ça, An Autumn Afternoon, ou sinon en français, Le goût du saké. Maxence, je te remercie beaucoup de nous avoir parlé de ce film-là.
Merci à toi. Bonne journée.
Un jour je vais faire un film. J'ai déjà écrit le script. Et dans le scénario, il n'y a pas du tout de trajet.
Vous êtes de retour à Ciné Histoire. Et puis maintenant, je vais faire un petit bloc de nouvelles brèves avant de se laisser pour parler de la revue 24 images. Les premières critiques de Gladiator 2 sont sorties. Ça a l'air moyen, comme la plupart des films de Ridley Scott de ce temps-ci. Hein. On sait qu'il suit Napoléon aussi, là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Bon, je crois que pas beaucoup de gens avaient demandé une suite à Gladiator, donc à voir au niveau de la pertinence un peu du sujet. Mais donc c'est ça, les critiques sont assez tiède pour l'instant. Donc, ce sera intéressant à voir. Moi, je vais essayer de revisionner le premier, que j'ai pas vu si souvent, puis j'ai découvert sur le tard aussi. Là, donc, on rappelle, le premier avait gagné le score du meilleur film là, en 2001. Et donc, c'est ça. J'ai hâte de voir. Bon, Paul Mescal, Denzel Washington, Kido Pedro Pascal. Bref, c'est quand même une distribution assez intéressante, mais je ne sais pas si le film sera à la hauteur du premier. Au moins, c'est Scott qui le fait, donc il y a une certaine continuité, j'ose espérer, mais bon, à voir. Également, il y a le trailer du prochain Mission Impossible qui est sorti au courant de la semaine. Dead Reckoning, c'est pas Dead Reckoning Part 2, je crois que c'est Final Reckoning. Bref, est-ce que ce sera le dernier de la franchise? Peut-être, c'est pas annoncé officiellement, je crois, mais je sais pas si Tom Cruise est prêt à passer à autre chose, d'autant plus qu'il va être, si je ne m'abuse, du prochain film de Paul Thomas Anderson. Bref, il faudrait que je reconfirme. Mais c'est ça, Tom Cruise, évidemment, l'inarrêtable Tom Cruise revient avec une autre aventure qui promet d'être assez relevée. Tu sais, le dernier n'avait pas connu un succès estimé au box-office, mais avait quand même eu un bon retour de la part des critiques, donc à voir. Puis sinon, il y a également, attendez un petit peu, hop, je retrouve mes informations. Il y a ce matin, en fait, là, il y a Conan O'Brien qui a été annoncé comme étant le prochain animateur de la cérémonie des Oscars. Ça aussi, ça promet d'être intéressant. C'est une personnalité que j'aime beaucoup aussi, donc pourquoi pas. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme nouvelle brève? Je crois que c'est Todd Haynes qui... on sera président du jury de la prochaine Berlinale qui va se tenir en février prochain. Lui est un peu, ben, pas nécessairement dans la controverse, là, mais il a fait parler de lui il n'y a pas si longtemps parce que le nouveau film avec qu'il devait faire, une romance homosexuelle qu'il devait faire avec Joaquin Phoenix, a avorté parce que Phoenix a quitté la production 5 jours apparemment avant le début du tournage. Donc c'est... c'est dommage, mais c'est ça. Je ne sais pas si c'est un projet qui va revenir éventuellement à voir. Mais c'est ça. C'est pas mal ce qui fait le tour un peu de ces nouvelles brèves de cinéma. Donc, on va aller en pause publicitaire, puis on va se laisser avec justement ma revue, mon tour d'horizon de la dernière édition de 24 images, la revue de cinéma, qui, je le rappelle, avait comme point d'intérêt les effets spéciaux au cinéma. Donc, voilà, on s'en va en pause, et puis on se laisse là-dessus. Merci beaucoup. La semaine prochaine, je vous promets une très belle émission. On va avoir des nouvelles chroniqueurs et chroniqueuses. Et puis, voilà, j'essaie de vous parler de la franchise Gladiator. Donc, voilà, on se laisse là-dessus. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
Un jour, je vais faire un film. Il ne sera pas long. Quelques petits moments. Coller les uns aux autres sans narration.
Le dernier numéro de la revue 24 images, donc le numéro 212, a gardé un focus sur l'utilisation contemporaine des effets spéciaux. La revue est intitulée « Aux frontières du réel » et contient une série d'entrevues, de chroniques et de critiques de films qui mettent l'accent justement sur les effets spéciaux. On a tout d'abord un texte d'Éric Falardeau qui s'intitule justement « Aux frontières du réel » et qui s'intéresse, c'est ça, à la révolution du numérique dans l'industrie cinématographique, avec comme point d'ancrage un peu, puis ça c'est un film qui revient quand même assez souvent tout au long du dossier, The Lord of the Rings, essentiellement, là, qui est peut-être le meilleur exemple d'un mélange entre effets spéciaux pratiques, donc des effets de caméra, des animatronics, des maquillages convaincants et tout, et des effets spéciaux générés par ordinateur, donc le fameux CGI. Donc, on brosse dans cet article-là, justement, un petit tour d'horizon sur le numérique, sur justement les possibilités qu'offre le numérique. On parle du tout récent Godzilla, on parle d'Avatar, évidemment, et même du documentaire animalier de Robert Morin, Festin boréal. Un texte qui met le ton un peu sur ce dossier-ci. On a ensuite un texte par Bruno Decken qui s'appelle « Enquête d'émerveillement, autoportrait d'une évolution à double tranchant ». Dans celui-ci, on explore un peu les effets spéciaux comme objet de divertissement. Donc, le but étant justement de bonifier l'expérience qu'on offre aux spectateurs dans des productions aussi variées que The Abyss de James Cameron ou même que The Curse de Nathan Fillion et Benny Safdie, donc la série HBO sur une fausse série de rénovation. Louis-Philippe Hamel, ensuite, nous prépare un texte intitulé « Fantaisie numérique, une brève exploration de la numéricité des adaptations de Tolkien au grand écran ». Donc, on fait ici les parallèles entre The Lord of the Rings et The Hobbit, donc les deux qui sont drastiquement opposés au niveau des effets spéciaux. Toujours dans cette quête de l'innovation un petit peu, mais la conclusion, évidemment, c'est que pour The Hobbit, on est peut-être tombé dans un piège qui a été un peu créé avec The Lord of the Rings, soit celui de voir toujours plus grand. Par la suite, on a un entretien avec Viva Pacci, qui est la directrice du livre « Plus de cinéma ». Images animées et effets spéciaux, publié aux presses de l'Université de Montréal cette année. On s'entretient un peu justement sur les origines de tout ça. On s'interroge aussi à la dichotomie entre le cinéma d'animation et le cinéma d'effets spéciaux. On prend comme étude de cas beaucoup The Lion King et comme quoi les effets spéciaux peuvent permettre des possibilités qui étaient jusqu'alors impensables. Par la suite, Sylvain Lavallée nous propose un texte qui s'appelle « Incarner l'image de synthèse » avec Andy Serkis. Donc, on retrace un peu la carrière de cet acteur qu'on connaît maintenant là, pour avoir personnifié évidemment Gollum dans « Le Seigneur des Anneaux », mais aussi César dans la nouvelle trilogie ou en fait la nouvelle franchise de « La planète des singes ». Donc, l'évolution de la motion capture, des performances hybrides, donc... composite entre de vraies performances et des performances générées par ordinateur. On y parle de de-aging aussi, notamment dans le cas de Irishman, et puis de double personnification aussi dans le cas de Venom, Let There Be Carnage. On a aussi droit à un entretien avec Denis Villeneuve qui a été recueilli par Bruno Decken et Eric Falardeau, donc « Enquête des imperfections du réel ». On s'interroge évidemment à beaucoup de problématiques que Villeneuve a vécues en tournant Dune, mais aussi ses autres projets, notamment Blade Runner 2049 et même Arrival. Donc son rapport un peu paradoxal à... puis ça se rapproche aussi évidemment de Peter Jackson dans sa trilogie du Seigneur des Anneaux, mais essayer d'utiliser les images... généré par ordinateur, mais aussi d'y aller au niveau pratique. Et puis là, Villeneuve nous révèle un peu que autant ça ouvre le monde des possibles, autant ça pas nécessairement ça castre, mais tout doit être planifié en avance. Il n'y a pas beaucoup de place qui est laissée à la spontanéité, donc ça demande vraiment de la préparation très, 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 très grande et très rigoureuse en amont du projet, ce qui est un peu... pas nécessairement contre-productif, mais un peu contre-nature par rapport au principe de liberté qu'est justement la production créatrice. Donc, vraiment un entretien très, très intéressant. Par la suite, Justin Baillargeon nous propose un texte qui s'appelle « Anticaméra et mise en scène hybride, révolutionner l'image au cinéma ». Ici, on plonge justement dans des films auxquels on ne pense pas nécessairement en premier quand on parle d'effets spéciaux, mais qui pourtant reposent de façon très importante sur ceux-ci. On parle beaucoup du cinéma de David Fincher, qui n'est peut-être pas la personne à qui on pense en premier pour les effets spéciaux, mais qui l'utilise à bon escient, que ce soit pour offrir une perspective différente, que ce soit pour... s'ouvrir justement au monde des possibles, franchir un mur, créer des jumeaux à l'écran. Beaucoup de scènes, là, c'est ça, qui se veulent naturalistes, mais qui pourtant sont de compositions justement générées par ordinateur. Un texte très intéressant aussi qui se questionne aussi sur le cinéma 100% virtuel. Il y en a eu quelques représentations dans les dernières années de Polar Express, The Adventures of Tintin. Mais est-ce qu'on se dirige vers ça? Peut-être, mais ça reste à voir. Alexandre Ruffier, lui, s'intéresse aux effets spéciaux dans le documentaire, en parlant notamment du film « Mon voisin Abdi ». En parlant aussi de Dick Johnson is Dead, on revient aussi au Festin boréal de Robert Morin. Donc, trois documentaires qui n'auraient pu exister sans l'apport des effets spéciaux et puis qui ça semble très contradictoire d'utiliser des effets spéciaux dans quelque chose qui tente de représenter le réel. Mais dans certains cas, ça permet justement plus de possibilités pour ce cinéma de documentaire-là ou ce cinéma... documentaire fictionnel, si on veut, donc de pouvoir illustrer des choses, de pouvoir mettre en abîme certains trucs qu'on essaie de représenter, donc avec une démarche qui est axée sur le réel, mais qui bénéficie justement de la part des effets spéciaux, donc un texte très intéressant, encore une fois. Par la suite, Elijah Baron nous propose l'art de cacher l'art quand les effets spéciaux sont invisibles. Il parle beaucoup d'illusions et puis de faire contrefaçon au réel. Et puis que c'est des procédés là, qui existent depuis même Citizen Kane dans les années 40 et jusqu'à tout récemment, encore une fois. Donc, essayer de cacher un peu les ficelles des effets spéciaux. Donc, voilà. Sami Benamar s'intéresse, quant à lui, à la création artistique et à la valeur artistique, justement, de l'expérimentation des effets spéciaux. Donc, dans son texte intitulé « De Jonas Mekas à George Lucas, les tableaux d'un joli effet ». Donc, on parle beaucoup de à quel point les effets spéciaux, maintenant, sont en quelque sorte la résultante d'un cinéma expérimental hérité là, du début des années 2000, des années 90, pardon, et même par les illusions de Méliès et tout ça. Donc, vraiment très intéressant encore une fois sur cet apport du cinéma expérimental-là. Par la suite, on a un dossier sur 10 films, 10 façons de penser les effets spéciaux. De ces films, on retrouve Oncle Boomy, Take Shelter, Fury Road et Furiosa, donc les deux récents, Mad Max, fait par George Miller, Green Screen Gringo, Rogue One, A Star Wars Story, Fairy Tale, Viking, Godzilla Minus One, Oppenheimer et Le Règne Animal. Donc, on explore un peu l'apport et l'importance des effets spéciaux pour chacune de ces productions-là et voir un peu, pas nécessairement son aspect novateur. Par exemple, pour Rogue One, on parle de reconstituer un acteur mort, donc en Peter Cushing. En Oppenheimer, ben c'est un peu... autant Christopher Nolan aime bien dire que ses films sont presque à 100% dénués d'effets spéciaux, alors que la scène marquante du film soit celle où il fait une conférence de presse et puis il voit l'auditoire un peu subir les effets de sa bombe atomique. Ben celle-ci, elle est générée par ordinateur et puis c'est pas mal la scène assez centrale de ce film-là. On parle de Viking, donc de repenser un peu les effets spéciaux différemment au Québec, des effets spéciaux minimalistes et Godzilla Minus One aussi, toujours un peu à cheval entre l'héritage du stop-motion des premiers Godzilla et puis des nouvelles capacités qu'offre le numérique aujourd'hui. Puis enfin, ben, on termine avec un texte d'Éric Falardeau sur l'après, sur ce qui nous attend au niveau de l'industrie des effets spéciaux, utilisation future des effets spéciaux dans le cinéma. Donc, un petit regard à la fois un peu cynique et à la fois un peu optimiste du cinéma, donc à effets spéciaux, qui s'en vient. Par la suite, on a 4 chroniques. Donc, on en a une première sur Jacques Rosier, le marginal décontracté. Donc, ce réalisateur français, peut-être un peu moins connu que ses compatriotes de la Nouvelle Vague, mais qui a proposé des films très, très intéressants, très naturalistes aussi, sans trop d'artifices, sans trop d'acteurs connus, quoique. Des films sur le voyage, sur l'évasion, sur vraiment très intéressants. Moi, je ne connaissais pas ce réalisateur-là. Et puis, il a fait quelques films, je crois 4, si je ne m'abuse. Et puis, chacun ont... du moins, on nous le vend très bien dans cet article-là. On a tous un angle assez intéressant. Moi, je vais essayer de plonger un peu au cœur de ce réalisateur-là. Par la suite, Sylvain Lavallée nous propose un texte sur Robert Bresson, donc sur la mystérieuse apparence du modèle de Robert Bresson. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, c'est un réalisateur qui essaie un peu de se détacher le plus possible du cinéma ou du cinéma-théâtre, de l'influence du théâtre dans le cinéma, pour proposer un nouveau mode d'arc narratif ou de trame narrative, souvent très, très dénué d'émotions, très, très épuré au niveau de la mise en scène, mais dont le but est d'accéder à un réel, un quelconque réel. Par la suite, Damien Decheberry nous parle écrit « N'ajustez pas votre appareil. La restauration d'images assistée par l'intelligence artificielle a parfois des ratés qui lui font franchir les limites du réel. » On prend l'exemple, justement, oui, de l'intelligence artificielle, mais encore une fois, là, de reconstitution un peu particulière. On parle même de jeux vidéo dans ce texte-là, donc avec Donald Sutherland qui s'est attaché dans les années 90 à un projet de jeu vidéo. Donc, la reconstitution de l'humain à l'écran à travers les effets spéciaux. Donc, réflexion très, très intéressante. Et finalement, la dernière chronique par Marc Mercier, « Bataille pour une reconnaissance cinématographique ». Donc, dans ce texte-là, on parle de l'identité de genre, d'une façon à explorer des stéréotypes qui sont souvent attachés à le cinéma queer ou le cinéma justement un peu alternatif. Par la suite, on a plusieurs critiques de films, notamment d'Ababouiné, une critique somme toute un peu négative de ce film-là, et de Yinta, ensuite donc de... Jennifer Wickham, Michael Toledano et Brenda Mitchell, un film canadien sur justement les revendications des Premières Nations dans l'Ouest. On a Jour de chasse, encore une fois, une critique un peu plus négative de Sammy Benhamar, qui en fait une également un peu plus convenue, qui critique un peu la forme un peu convenue de La femme cachée, voilà, de Bachir Bensadek. Une critique sur le récent Se fondre de Simon Lavoie, ainsi que sur The Substance, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, et sur le body horror en général. On a également une critique de Fermer les yeux, le nouveau projet de l'Espagnol Victor Erice. Et ça se termine avec les deux films Only the River Flows et Les Délinquants, donc qui a fait partie d'ailleurs, Les Délinquants, du top 5, je crois, ou du top 10 d'IndieWire, des meilleurs films de la dernière année. Et pour ceux et celles qui connaissent la revue 24 images, ils savent que ça vient toujours avec un DVD de courts-métrages. Donc ici, c'est 4 courts-métrages centrés sur la comédie humaine, sur les comédies humaines. Donc 4 très très bons courts-métrages. Vous pouvez vous procurer le nouveau numéro de 24 images, évidemment, dans les bibliothèques de Sherbrooke, sinon dans tous les commerces de revues. Donc, une édition très, très complète sur les effets spéciaux vous attend dans ce numéro 212.